pas ridicule de Raymond Queneau. Extrait de l'instant fatal, poésie.
Poésie, oui. C'est de la poésie, et Queneau nous le dit. Dégustez dès alors les beaux alexandrins qui parlent du trésor offert à notre femme.
Une fois n'est pas coutume.
Allons au restaurant, nous payer du caviar et des petits ortolans. Consultons le journal, à la rubrique Esbrouf, révélant le bon coin où pour pas cher on bouffe. Nous irons à celui-là, mais il y a des objections. L'un aime ci, l'autre aime ça. Je propose en bouffant notre appétit peu mince au bistrot le troisième après la rue Huygens. Tous d'accord, remontons le boulevard Raspail jusqu'au bar où l'on suce la mousse avec des pailles. Avec ses chers amis, d'un pas moins assuré, nous trouverons enfin le petit endroit rêvé. Les couteaux y sont mous, les nappes y sont sales, la serveuse sans phare parfume toute la salle. Le patron, un gourmet, vous fait prendre, c'est fou, du pipi pour du vin et pour du foie du mont. La patronne a du cran et rince les sardines avec une huile qui fut huile de paraffine. La carne nous amène un rôti d'aspect dur, ourné concentriquement de légumes impurs. Elle vous proposera les miettes gluantes d'une tête de veau que connurent les Landes. Elle proposera les panards englués d'une tête de veau. Pardon. De la boucherie à la charcuterie. Elle proposera les panards englués d'un porc qui négligea toujours de les laver. Voici, ma belle enfant, un petit nerf de bœuf que vous utiliserez pour casser tous vos œufs. L'hôtesse, nous voyant grignoter son ménage, écaillera les murs de l'ampleur de sa rage. Alors, avalerons fourchettes et couteaux avant d'avec vitesse enfiler nos manteaux. Fuyards, nous galopons dans la rue Saint-Neige, sans peur de déchirer la couture de nos règles. Nous retournant au bout de 50 ou 100 mètres, nous verrons la Souillon jouer au gazomètre et nous pétéronner ces infâmes insultes, patronne de bistrot, empoisonneuse, occulte.
Donc, de Philippe Delerme, aider à écosser des petits pois.
Cet extrait de son premier ouvrage, d'ailleurs, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules.
On change de style. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner. Loin encore les parfums mitonnés du déjeuner, la cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur pousse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider ? ça va de soi. On peut aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser des petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la bousse, elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la moulure et la chair dense, juste sous la peau, faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Parfois, on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu amer, mais frais, comme la cuisine 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés, tout prêt, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon et finissent de sécher. Alors, on parle à petits coups, et là aussi la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière. De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre, à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée, c'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours à léger contretemps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, de ralentir le matin, gousse à gousse, manche retroussée. On passe les mains dans les boules écossées qui remplissent le saladier. C'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau verte tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être, clair, et puis...
Et il y aura juste le pain à aller chercher. Et maintenant, de Johann Faber, la cuisine des écrivains, avec d'abord... L'infraordinaire, un texte de Georges Perec qui s'intitule « Tentative d'inventaire des aliments liquides et solides que j'ai ingurgités au cours de l'année 1974 ».
Donc, aliments liquides.
9 bouillons de bœuf, un potage au concombre glacé, une soupe de moules.
Aliments solides. Produit carné, mais par ordre alphabétique.
Lettre A.
2 andouilles de guénémé. 1 andouillette en gelée.
Lettre C.
1 charcuterie italienne. 1 cervelas. 4 charcutailles. 1 copa et 3 cochonailles.
Lettre F et H.
1 fatitelli. 1 foie gras. 1 fromage de tête. 1 ure de porc.
Lettre M et P.
4 museaux, 1 mousse de foie gras, 5 jambons de Parme, 8 pâtés, 1 pâté de canard, 1 pâté de foie gras truffé, 1 pâté en croûte, 1 pâté grand-mère, 1 pâté de grive, 6 pâtés des Landes, 1 pied de cochon.
Lettre R, S, T.
7 rillettes. 1 salami, 2 saucissons, 1 saucisson chaud, 1 terrine de canard, 1 terrine de foie de volaille.
Et aussi, un blini, un empanada, 1 viande de grison et 3 escargots.
Produits de la mer, par ordre alphabétique.
Lettres B et C.
1 belon, 3 coquilles de Saint-Jacques, 1 crevette, 1 croustade aux crevettes.
Lettres F et H.
1 friture, 2 fritures d'équille, 1 hareng, 2 huîtres.
Lettre M, O, Q, S.
1 moule farcie, 1 oursin, 2 quenelles au gratin, 3 sardines à l'huile, 5 saumons fumés.
Lettre T, toute seule.
1 tamara, 1 terrine d'anguille, 6 thons, 1 toast aux anchois, un tourteau.
Et pour finir, les végétaux, pour les végétariens, le végan, si vous voulez, hein. Et par ordre alphabétique, toujours. Lettre A.
4 artichauts, une asperge, une aubergine.
Lettre C.
Une salade de champignons, 4 concombres à la crème, 14 céleri rémoulades, 2 choux chinois, 1 cœur de panier, 11 assiettes de crudités.
Lettre H, M, P, Q, R, T.
2 salades de haricots verts, 13 melons, 2 salades niçoises, 2 pissenlits au lard, 14 radis noirs, 3 radis noirs, 5 salades de riz, 1 salade russe, 7 salades de tomates et une tarte à l'oignon.
Alors là, un texte de Théophile Gautier, Voyage en Espagne. Il parle du pucherot.
Puchero. Après la soupe, l'on apporta le puchero, mais éminemment espagnol, ou plutôt l'unique mais espagnol, car on en mange tous les jours, d'Irún à Cadix, et réciproquement. Il entre dans la composition d'un puchero confortable, un quartier de vache, un morceau de mouton, un poulet, quelques bouts d'un saucisson nommé chorizo, bourré de poivre, de piment et autres épices, des tranches de lard et de jambon, et par là-dessus, une sauce véhémente aux tomates et au safran. Voici pour la partie animale. La partie végétale, appelée verdura, varie selon les saisons, mais les choux et les garbanzos servent toujours de fond. Le garbanzo n'est guère connu à Paris, et nous ne pouvons mieux le définir qu'en disant
« Mais c'est un pois qui a l'ambition d'être un haricot, et qui réussit très bien d'ailleurs. Tout cela est servi dans des plats différents, mais on mêle ces ingrédients sur son assiette de manière à produire un mélange très compliqué et de fort bon goût. Cette mixture paraîtra tant soit peu sauvage aux gourmets qui lisent Carême, Bria Savarin, Grimaud de la Reynière et Monsieur de Pussy. Cependant, elle a bien son charme et doit plaire aux éclectiques et aux panthéistes.
Ensuite, on est toujours dans le puchero, hein? Ensuite viennent les poulets à l'huile, car le beurre est une chose inconnue en Espagne. Le poisson frais, truite ou merluche, l'agneau rôti, les asperges, la salade, et pour dessert, des petits biscuits macarons, des amandes passées à la poêle et d'un goût exquis. Du fromage de lait de chèvre, queso de Burgos, qui a une grande réputation, qu'il mérite quelquefois. Pour finir, on apporte un cabaret avec du vin de Malaga, du Jerez et de l'eau de vie, aguardiente, qui ressemble à de l'anisette de France, et une petite coupe, fuego, remplie de braise pour allumer les cigarettes. Ce repas, avec quelques variantes peu importantes, se reproduit invariablement dans toutes les Espagnes.
Dans l'écume des jours, Borigliando, égrène une quantité astronomique de recettes complètement bizarroïdes. Alors nous avons choisi une, elle est aussi bizarroïde que les autres, c'est la fameuse l'andouillon des îles.
Extraite de l'écume des jours.
Ah, tu l'as dit, c'est dit au début. Ah, bon. On va parler des BG.
Je resterai, une fois de plus, dans la tradition de Gouffet, en élaborant cette fois un andouillon des îles au porto musqué.
Et ceci s'exécute, dit Colin,
de la façon suivante. Prenez un andouillon que vous écorcherez malgré ses cris. Gardez soigneusement la peau. Lardé, l'andouillant de pâtes de homard émincé est revenu à toute bride dans du beurre assez chaud. Faites tomber sur glace dans une cocotte légère. Poussez le feu et sur l'espace ainsi gagné, disposez avec goût des rondelles de riz mitonné. Lorsque l'andouillant émet son grave, retirez prestement du feu et nappez de Porto de qualité. Touillez avec une spatule de platine. Graissez la poule et rangez-le au four pour qu'il ne roule pas. Au moment de servir, faites un coulis avec un sachet de litinée et un quart de lait frais. Garnissez avec les riz. Servez et allez-vous-en.
Je reste sec, dit Colin. Bouffer fut un grand homme.
Et maintenant, de Théophile Gautier, extrait des Jeunes France, de l'obésité en littérature. L'homme de génie doit-il être gras ou maigre, chair ou poisson, et peut-il ou non se manger les vendredis et les jours réservés? C'est une question assez difficile à résoudre.
J'avais la conviction intime que le génie devait être maigre, comme un hareng sauré. D'après le proverbe, la lame use le fureau. Et le vers des orientales, son âme avait brisé son corps. Je m'étais arrangé là-dessus avec d'autant plus de sécurité que je n'étais pas fort gras à cette époque. Depuis, en confrontant ma théorie avec la réalité, je reconnus que je m'étais grossièrement trompée, comme cela arrive toujours d'ailleurs. Et j'en viens à formuler cet axiome parfaitement antithétique à mon premier, c'est à savoir, l'homme de génie doit être gras.
Oui, oui, l'homme de génie du 19e siècle est obèse et devient aussi gros qu'il est grand. La race du littérateur maigre a disparu. Elle est devenue aussi rare que la race des petits chiens du roi Charles. Le littérateur n'est plus crotté. Les poètes ne prétissent plus les bouts de la ville avec des bottes sans semelles. Ils déjeunent et dînent au moins 2 jours l'an. Ils ne vont plus, comme Scudéry, manger leur pain avec un morceau de lard rance, dérobé à une souricière, dans quelque allée déserte du Luxembourg. Les hommes de génie ne soupent plus comme autrefois avec la fumée des rôtisseries. Ils prennent leur nourriture sur des tables et dans des assiettes qui sont à eux, ainsi que ceux qui les apportent.
La poésie, étonnée, ravie d'avoir à manger, se mit à travailler des mâchoires de si bon courage qu'en très peu de temps, elle prit du ventre.
Le monde et la redingote de Monsieur Hugo ne peuvent contenir sa gloire et son ventre. Tous les jours, un bouton saute, une boutonnière se déchire. Il ne pourrait plus entrer dans son habit des feuilles d'automne.
Quant au plus fécond de nos romanciers, Monsieur de Balzac, 3 personnes, en se donnant la main, ne peuvent parvenir à l'embrasser. Et il faut 1 heure pour en faire le tour. Il est obligé de se faire cercler comme une tonne de peur d'éclater dans sa peau. Rossini est de la plus monstrueuse grosseur. Il y a 6 ans qu'il n'a pas vu ses pieds. Il porte 3 toises de circonférence. On le prendrait pour un hippopotame en culotte. Si l'on ne savait d'ailleurs ce qu'est Antonio Joachimo Rossini, le dieu de la musique.
Monsieur Théophile Gautier renouvellera incessamment l'espoir de Milon de Crotone de manger un bœuf en 1 jour, les cornes et les sabots exceptés, bien entendu. Ce que ce jeune poète élégiaque consomme de macaroni par jour donnerait des indigestions à Dila Faloni, ce qu'il boit de bière enivrerait 10 flamands de Flandre.
Nos grands hommes sont de force à lutter avec l'inspiration. Leur pensée peut être aussi affinée et tranchante qu'un damas turc. Ils ont un fourreau si bien matelassé et rembourré qu'il ne sera pas usé de longtemps. Cependant, quoique la Grèce soit à l'ordre du jour, il faut avouer qu'il y a quelques génies maigres. Monsieur de Lamartine, Monsieur Alfred de Musset, Monsieur Alfred de Vigny, Monsieur Arsène Lucet et quelques autres. Mais il est à remarquer que toutes ces gloires, dont les eaux percent la peau, sont des rêveurs de l'école de la Nouvelle Héloïse ou du jeune Werther, ce qui est peu substantiel et peu propre au développement des régions abdominales. Et y a-t-il encore de la place pour écouter ? Alors, l'histoire d'Aï de Liliane Giraudot et Xavier Girard. Aïgo Boulide. Elle sauve la vie, dit le proverbe. Les paysans ont usé comme d'un drone pour chasser le coup de froid. Elle fait partie des soupes de pierre, un breuvage paléolithique, une soupe qui invite à la découverte et au partage, composée d'ail, et qui vient juste après la soupe des morts.
Mais la soupe des morts, il n'y a pas d'ail. Elle ne soupe pas à la courge, mais au pois chiche. C'est une tradition grise. Elle se consomme plutôt le jour de la Toussaint, à midi, le soir étant occupée par une veillée aux châtaignes, avec des légendes, des histoires personnelles, des contes.
Alors, pour le moment, on laisse la soupe des morts. Alors, Aïgo Bouillido, recette. Pour sa préparation, rien de plus simple. Une belle eau pas trop calcaire, du gros sel un peu gris, quelques gousses d'ail selon grosseur, en chemise, s'il vous plaît, mais écrasées. Quand ça bouillonne, coupez une tige de sauge bien feuillue. Placez-les, Il est permis au passage de caresser le velours vert de ses petites oreilles. Comme pour la tisane du soir, laissez dormir quelques instants en ajustant le couvercle pour que ça infuse bien. Faire griller les tranches de pain assez épaisses, frottez-les si vous aimez avec l'ail, placez-les au fond de l'assiette à soupe et laissez pleuvoir dessus au ralenti de fin coco de grana de padone. Poivrez et paraffinez pour un filet d'huile d'olive la picoline de la pompée de Marat dans le haut var. Je fais de la publicité. Cette soupe, avec la digestion dans l'estomac, a un effet positif et bénéfique. Cette soupe est très stomachique, elle stimule l'appétit.
Une chronique du Monde Magazine de Camille Lapeu. Francis Chevrier, fondateur et directeur de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, a rencontré Pierre Saner, arrivé à la gastronomie par une succession d'événements et par son intérêt pour le patrimoine et sa préservation. Francis Chevrier, donc, a proposé un défi à Pierre Saner. Il lui a dit: et si on faisait en sorte que la cuisine française soit inscrite à l'UNESCO ? Eh bien, ils ont ainsi fait reconnaître la cuisine comme une culture, un art noble et identitaire, et ont contribué à faire inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine de l'UNESCO en 2010. Voici une recette empreinte d'histoire et de goût d'ailleurs. Des racines et des ailes.
C'est le poulet du dimanche. Je vais tout le monde le connaître. Vous y retrouvez, je pense. 1. Rapportez du marché un beau poulet fermier d'environ 3 kilos et qui a couru en plein air. 2. Le badigeonnez généreusement d'huile et de jus de citron salé quoi ? Farcir le ventre du poulet de quignons de pain sec frottés à l'ail. 4. Faire rôtir au four à 210 degrés pendant une heure environ. 5. Déguster le poulet rôti traditionnel du dimanche en famille avec de la purée de pommes de terre et son petit volcan pour recueillir le jus de cuisson.
Et voilà.